Et donc cette semaine, en Philippiens chapitre 2, nous allons conclure ce qu'on avait commencé la semaine dernière sur l'égoïsme fondamental, l'égoïsme relatif, les différentes sortes d'égoïsme de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Et comme nous avons vu il y a deux semaines, le contraste entre le sacrifice de Jésus-Christ ultime, qui a été ensuite appliqué dans la vie de Paul, ensuite de Timothée, des Philippiens et Épaphrodite, mais pas, qui n'était pas un exemple pour ceux qui étaient autour de Paul. Alors, Philippiens chapitre 2, versets 20 et 21, on va commencer au verset 19. Philippiens 2, 19 à 21, ça dit: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. On va prier. Père éternel, on regarde ce matin encore le sujet de l'égoïsme et les différentes sortes d'égoïsme, Seigneur Dieu, qu'il peut y avoir dans nos cœurs. Et on te prie que tu puisses sonder chacun des cœurs et, Seigneur, que tu appliques par ton Esprit Saint à chacun ce qui devrait changer, Seigneur Dieu. Tu connais le besoin de chacun, que ce soit vraiment se repentir et croire en toi pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu connais ceux qui t'appartiennent et qui ont vraiment fait cela et qui, Seigneur, maintenant tu convies à suivre Jésus en pratique dans la vie de tous les jours pour vraiment te suivre et te faire connaître, Seigneur Dieu, et chercher les intérêts de Jésus-Christ et non pas ses propres intérêts. On te prie donc que tu puisses m'aider à bien exposer droitement le sens de ta parole, Seigneur Dieu. On te prie au nom de Jésus. Amen. Et donc, la semaine dernière, nous avons commencé justement... Et nous avions vu, on va reculer peut-être dans la révision, il y a deux semaines, on avait commencé à voir justement le contraste entre le sacrifice et l'égoïsme. Et on avait tiré l'illustration aussi de l'Empire ottoman, l'Empire turc musulman, qui est vraiment égoïsme total. L'égoïsme, vouloir prendre d'autres peuples, faire en faire des esclaves de toutes sortes, tuer ceux qui les dérangeaient, massacrer bien des gens. Et on avait vu l'exemple justement vers le 1400-1500, rentrer dans la Valachie. Et quelques personnes, à travers les années, à travers les siècles, se sont un petit peu... se sont fait un exemple de sacrifice personnel pour combattre, pour défendre leur peuple, pour s'opposer, même en infériorité numérique totale, contre des énormes armées turques. Et on avait vu il y a deux semaines Vlad III, Dracula, l'empaleur. On sait que beaucoup de choses ont été faites de lui qui ne sont pas vraies. Non pas que toutes ces méthodes, on les utiliserait bien sûr, mais quand même, c'était ce qu'on a vu il y a deux semaines. On a vu que l'Empire ottoman s'est devenu énorme, on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire, mais c'était pour toujours envahir plus loin, toujours avoir plus d'esclaves, toujours massacrer plus de gens, et c'est triste. La semaine dernière, on a vu l'exemple de Georges Cassetti, Skanderberg, qui, dans sa jeunesse, avait été pris de son pays, l'Albanie, qui avait été... pour en faire un soldat dans l'armée des janissaires. On avait vu l'armée des janissaires, c'est une des plus horribles inventions qu'on peut faire, de prendre la jeunesse d'un peuple voisin et en faire une armée ensuite qu'on utiliserait pour détruire son pays voisin. On les prend de force des familles, d'où ils viennent, et on les fait un lavage de cerveau. Ils les convertissent à l'islam par la force et ensuite ils les entraînent comme des guerriers, des élites guerriers, une armée élite pour rentrer et détruire. Et on avait vu que justement, Georges Castetier avait été pris avec ses trois autres frères. Lui, il était le seul qui a survécu. Les autres avaient été torturés jusqu'à mourir. Et il s'est donné en sacrifice. Il a à un moment donné eu l'occasion de se rebeller contre les musulmans et en fin de compte, défendre, s'opposer aux Turcs et défendre son pays, l'Albanie. Et il a fait ça à grand sacrifice, énorme sacrifice. Et on avait vu qu'il n'avait pas combattu seulement contre les Turcs, il avait combattu contre ceux qui se liguaient contre les Albanais qui se liguaient contre eux-mêmes, parce qu'à titre personnel, ils voyaient qu'ils pouvaient faire un peu plus de sous, un peu plus de bien en se liguant avec les musulmans. Et donc, il a dû traiter avec des traîtres dans son sein, parmi eux. On a vu que dans ce monde, il y a beaucoup de bonté, qu'on voit des gens qui se lèvent pour se défendre ce qui est bien, par sacrifice, mais c'est dans ce monde. Et la semaine dernière, on a vu justement que ça, les personnes qui, à travers les temps, s'élèvent pour défendre le bien, dans ce monde, ben, ils n'appliquent pas ces principes-là par rapport à l'éternité. Et donc, par rapport à l'éternité, là c'est une autre histoire, là on mérite bien, on ne reconnaît pas la gravité de son propre égoïsme personnel. Et donc Dieu veut qu'on applique ces principes-là de façon éternelle. Et donc on doit réaliser que dans nos cœurs, on a tous cette racine d'égoïsme, de péché, qu'il faut admettre et de laquelle on doit être triste et se tourner à celui qui a fait le sacrifice des sacrifices. Jésus n'a pas regardé à ce qui lui était propre, il n'a pas regardé à ses propres intérêts, il a accepté d'être mis en dernière place, pour ainsi dire, il a accepté d'être puni pour tout le monde, il a accepté de ramasser les déchets de tout le monde. Lui qui n'avait jamais jeté de déchets à terre comme ça, tous les autres, c'est comme si nous on jette tout par terre, puis on s'en moque là, de ce qu'on vit dans les une poubelle. Mais lui, il est allé pour ramasser le déchet de tout le monde, même si lui n'avait jamais rien fait. Là, je parle en termes imagés, mais là, c'est combien pire. Nous qui avions dit des paroles blessantes, qui avons fait des choses pervers, qui avons eu l'amour de l'argent, qui est vain, et lui, il a été payé. Lui, il a payé pour tout ça. Et on avait vu la semaine dernière, justement, que quand on réalise et qu'on admet devant Dieu notre égoïsme personnel, notre péché personnel, et qu'on mette notre foi que Christ a subi la punition de nos péchés, lui, il a vécu en sacrifice total. Eh bien, Dieu nous demande aussi de faire ce sacrifice, de dire, ok, je vais abandonner ma propre vie comme je l'entends, et je vais me convertir à lui, et je vais prendre la moquerie, je vais prendre la persécution, je vais prendre ce qui vient avec, parce qu'après tout, l'éternité vaut mieux que cette vie temporaire, gâchée par le péché. Et il y a un sacrifice fondamental qu'on doit faire quand on accepte Jésus-Christ. On va y arriver la semaine prochaine dans Philippiens chapitre 3. Le sacrifice de Paul quand il s'est converti. On va voir donc l'exemple de cela en détail. Mais on avait commencé à voir la semaine dernière justement aussi que pour le chrétien, après que fondamentalement on fait un choix d'accepter Christ plutôt que de simplement faire à sa tête dans sa vie, suivre la religion qu'on veut ou l'irréligion qu'on veut, on accepte Christ comme notre sauveur, on se convertit à lui, on met en lui notre confiance, que lui nous prend en main de A à Z. Il nous prend, on est complètement perdu, et il nous fait qu'on est complètement sauvé. Il nous prend quand on est 0% sauvé, on n'a rien de fait, parce qu'on ne peut rien faire. Et lui, 100%, il nous fait sauver, il nous fait passer de la mort à la vie. On lui fait confiance, hein, que c'est lui qui nous change de l'intérieur, qui nous donne un nouveau cœur. Bien, après ça, donc, il y a pour le chrétien l'opportunité de servir ou d'être distrait par ce monde et de gâcher l'opportunité de vraiment le servir. Et c'est ce que nous allions développer plus cette semaine, justement, que nous allons voir. On va tourner dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Et on voit dans ce que dit 1 Jean chapitre 3 que le chrétien se démarque du fait qu'il n'est pas esclave de ses péchés. Il ne continue pas dans un égoïsme fondamental de méchanceté, de cruauté et de pas d'égard vis-à-vis de qui Dieu est et de ce qui est bien et mal. On fait à sa tête selon ce qui nous semble bon et on est assez orgueilleux pour voir d'autres qui font selon nous pire et se croire bon. Et le chrétien n'est pas démarqué donc par l'esclavage au péché. 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Pour l'instant, ceux d'entre nous qui sommes enfants de Dieu, on sait qu'on a un corps, nos corps corrompus. On a un corps, des mauvaises idées parfois nous viennent d'un corps dans la tête. On a un corps, les mêmes tendances. On a un nouveau cœur, une nouvelle nature, mais on a toujours cette ancienne nature. Et on a hâte au jour où on sera dans un corps glorifié. On ne pourra plus non seulement être malade, mais on ne pourra plus non plus pécher. On aura un corps parfait et ça sera merveilleux. J'ai hâte ce jour-là. En attendant ce jour-là, comme il dit, celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Ce n'est pas une excuse pour dire « Ah, ben, j'ai encore ma vieille nature. Ah, ok, tu m'y donnes à cœur joyeux. Je me rends et je vais faire toutes ces convoitises. » Non, on va dire « Non, je lutte. » Hébreux 12, vous n'avez pas encore fini de lutter contre le péché. Le chrétien, il n'a pas fini de lutter contre le péché. Il ne s'adonne pas simplement à la nature originale de l'homme corrompu, hein, ce qu'on est quand on est né de parents pécheurs, on est pécheur. C'est la nature corrompue de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il dit, verset 4 ? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La loi est bonne, sainte et parfaite, et Romains chapitre 7. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Maintenant, si on lit ça uniquement là, ça se peut qu'on arrive à des fausses conclusions. Mais Jésus, il s'éclaircit dans ce qu'il dit. S'éclaircit, pour que c'est pas clair, mais il va nous aider à comprendre le contexte et le sens de ce qu'il dit. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Là, il parle de pêche au sens de la pratique du péché, la caractéristique du péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Demeure, on parle de à la longue. Ne pêche pas à la longue. Ça ne veut pas dire que celui qui ne demeure pas en lui ne peut pas tomber. Comme le proverbe dit, le juste tombe sept fois, chute sept fois, mais il se relève. Il ne continue pas à jamais dans la caractéristique là de continuer à pécher. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire un peu plus loin, donc pour clarifier, pour être clair. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Il n'est pas en train de dire que c'est par la pratique de la justice qu'on obtient notre ciel, qu'on doit pratiquer la justice pour mériter. Romains 3, c'est clair qu'on ne peut pas mériter. Mais le caractéristique ici, celui qui se convertit réellement, qui passe d'un égoïsme de fond à ce sacrifice fondamental de choisir de se repentir et croire en Jésus, il y a cette caractéristique qu'on va pratiquer la justice. On ne va pas pratiquer le péché, comme il dit. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Parlé il y a longtemps à une dame et je lui ai montré ces vérités-là que pour comprendre comment être sauvée, elle doit comprendre à quel point elle est perdue et elle est sous la puissance du diable. Tout en français. Hein? Moi, du diable? Tu dis que je suis une amie du diable? Tu dis que je suis du diable? Hein? J'ai dit, madame, c'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Venez pas me crier après. C'est pas à moi qui le dis. Et il le dit. Celui qui ne
lorsqu'il sautait la place. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et gloire à Dieu! J'ai essayé de dire à la madame, madame, Dieu vous dit que vous êtes sous la puissance de Satan, mais vous n'êtes pas obligé de rester là. Dieu est venu pour que vous puissiez passer de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Oh, et quand il fait ça, il l'a fait parfaitement. Alors, là ici, on parle de caractéristiques. Quiconque ne pratique pas, là-haut, excusez, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Là, on ne parle pas de péché occasionnellement, de chuter, même avoir des mois où ce qu'on peut être endurci. David, quand il avait péché avec Bathsheba et tué son mari pour essayer de le cacher, il était endurci des mois de temps. L'enfant est né, l'enfant a eu le temps de naître. 9 mois ont passé. Et il était malheureux, il en parle, il était malheureux. Il savait qu'il était en règle avec Dieu, son sauveur. Ça le travaillait. Dans psaume 32, il en parle, psaume 51. Mais il n'est pas resté là. Quand il était confronté, il a dit, il n'a pas continué à pratiquer l'adultère. Alors c'est pour ça qu'il dit, ce quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher au sens de il ne peut pratiquer le péché. Dieu, quand il sauve, Jésus, quand il sauve, il ne laisse pas quelqu'un être esclave de ses péchés. Être esclave de ses péchés, c'est quelqu'un qui pratique le péché d'une façon caractéristique. Il continue dans ce qu'il sait être mal. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Savez-vous, j'ai entendu à travers le temps beaucoup de gens qui disent, je suis de Dieu, je suis de Dieu. Un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. Et ensuite, ils disent leur vie, et là, c'est la pratique du péché. Alors, je sais que quelqu'un va dire, je suis de Dieu, mais quand leur vie est un témoignage de la pratique du péché, que ce soit le péché qui est très très commun, c'est de ne pas honorer le mariage. Hein? Aujourd'hui, la plupart des foyers, les enfants de toutes sortes de pères, et le mariage, la débauche. Très commun. Dieu appelle ça le péché. Que ce soit la fraude, hein, travailler au noir pour éviter de devoir payer des taxes. Très commun. On ne peut pas dire, je suis un homme de Dieu. Je travaille au noir. Je sais que je travaille au noir. Je vais continuer. C'est pas aller à l'église qui va m'empêcher de continuer durant la semaine de travailler au noir. Dieu dit clairement, on ne peut pas dire, je suis un homme de Dieu, je continue à pratiquer le péché. Et Dieu dit, tu pratiques le péché, tu démontres que tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est une caractéristique ici. Donc le vrai converti, il ne continue pas dans son égoïsme de fond, dans le péché de fond. Verset 10. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Alors, 1 Jean chapitre 3 ici nous parle de la caractéristique là de le vrai chrétien. Il peut lutter avec l'égoïsme, le sacrifice dans sa vie de servir Dieu, mais il, fondamentalement il ne continue pas dans ce qui est noir sur blanc, péché. Parce que Dieu condamne carrément sur péché, un vrai chrétien ne continue pas d'une façon caractéristique. Il peut lutter avec pour des mois, comme David, qui avait continué dans l'adultère pendant 9 mois, et essayer de cacher son péché, mais ce n'est pas la caractéristique de sa vie, du tout. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 à 11.
9 à 11. Vous voulez lire avec moi?
On lit ensemble. Page 870. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ensemble. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu chercher des pécheurs, comme Paul dit, dont je suis le premier, l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul a reconnu que lui-même était très coupable, il était un grand pécheur. Lui qui était très religieux, qui était très 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 respecté, tout le monde l'admirait pour son zèle. Mais lui, quand il s'est vu pécheur, en fin de compte, il s'est vu pécheur devant Dieu. Ah, ça fait mal. Et il a été sauvé. Ben ici dans Corinthe, il y avait des efféminés, il y avait des voleurs, il y avait des cupides, il y avait des débauchés. Mais ils ont été convertis. Ils se sont convertis à Jésus. Jésus les a sauvés, les a justifiés, les a sanctifiés, tout ça. Le verbe, quel est le temps du verbe? C'est là ce que vous étiez. C'est quel temps de verbe ça? On va faire un peu de grammaire ce matin. C'est là ce que vous étiez, parce que c'est le présent. C'est là ce que vous êtes, quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez, passé. Passé. Quand Dieu les a sauvés, il y avait certaines choses de leur vie, c'était fini. Fini la caractérisation de continuer comme si de rien n'était dans sa débauche. Comme si de rien n'était, je continue à voler. Ah oui, j'ai un dimanche à l'église, mais durant la semaine, si je peux prendre quelque chose de mon voisin qu'il ne remarque pas, ça ne dérange pas. Prendre la valeur de la société et de mes taxes, prendre l'électricité branchée illégalement, ça ne me dérange pas. Je vais continuer là-dedans. Dieu, il dit, hey, tu rentres pas dans le ciel, point final, c'est tout, c'est ça. Ni les voleurs, ni les idolâtres, les porte-bonheurs, tout ça, c'est là ce que vous étiez. Alors, gloire à Dieu. Dieu, quand il sauve réellement et il ne laisse pas quelqu'un continuer tout bonnement dans son péché. Si vous voulez vous convertir, voulez-vous vraiment vous convertir? Voulez-vous vraiment abandonner ce que vous savez déjà être péché? Dieu, il vous demande de vous repentir de ce que vous savez déjà être péché dans vos cœurs et de croire en lui. Regardez encore 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9. Un peu plus loin, sur la même page. Dans le contexte, 1 Corinthiens 7, Paul s'adresse là à des questions qu'ils avaient écrites par rapport à ce qu'ils devraient se marier ou pas. Il dit, verset 1, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Donc, gardons les distances, si on est pas marié, si on est marié, que chacun ait sa femme, que chacun ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Là, il revient à ce qu'il dit au début. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Dans la suite, il va encourager les gens à considérer le célibat. Parce que dans leur contexte, il y avait des difficultés, tout ça, il dit, considérez, peut-être, hein, ce serait bien une bonne chose pour vous, de rester célibataire. Donc il dit, j'en fais pas une ordre, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, lui il était seul, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'un de l'autre, c'est ça le mariage, ou d'être célibat. Verset 8, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, là on va lire ensemble la fin du verset 9. Car, ensemble, car il vaut mieux
se marier que de brûler. Ah oui, c'est bien ça qu'il décrit. De quoi qu'il parle? Verset 6, chapitre 6, verset 9, on l'a vu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les riches rentrent dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le reste s'ils ne rentrent pas dans le royaume de Dieu? Où est-ce qu'ils vont? Ils vont brûler. L'éternité. Et Paul est très catégorique. Il dit, j'encourage à considérer le célibat, mais si dans votre cœur vous savez que vous ne résistez pas à la tentation, puis que ça vous prend certaines choses, ben mariez-vous, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Si vous pensez que simplement faire des choses sans être marié, c'est une solution que Dieu va comprendre, non. Dieu, il est ferme. Aux adultères, ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Alors au verset 7, il vaut mieux se marier que de brûler. Si, personnellement, il dit, vous ne pensez pas pouvoir tenir à résister en tant que célibataire, puis que là, ça vous prend quelque chose, marie-toi pour que ça soit légitime. Il vaut mieux se marier que de brûler. Tout ça pour dire, Dieu est très très clair que ce n'est pas du n'importe quoi, c'est pas du à peu près.
Quand on se convertit pas pour continuer dans le péché. Ce qui est noir sur blanc, ce que Dieu condamne, le vrai chrétien, il ne reste pas esclave de ses péchés.
Il n'y a pas de continuation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte. Hébreux 2, 12, ça dit qu'il y aura une lutte. Mais il n'y aura pas simplement continué comme si de rien n'était. Et j'en ai connu des gens qui se sont convertis, entre guillemets, mais ils ont continué dans leur péché. Pas de changement à certains égards. Ils ont continué à faire des choses qui étaient noires sur blanc et qu'ils savaient être péché. Parfois, on peut ne pas réaliser, avoir comme des angles morts. Dieu va nous éclaircir sur ces choses-là. Par exemple, j'ai entendu un pasteur qui partageait cette histoire. Il dit, il y a longtemps dans son ministère, il y avait un jeune couple qui s'était converti. Et puis, il y avait même quelques hommes francs. Et là, ils changeaient, ils étaient tout zélés, ils en invitaient pour venir à l'église, entendre l'évangile aussi, pour qu'ils puissent être sauvés, tout ça. Après 6 mois, ils continuaient, etc. Et le pasteur s'est dit, à un moment donné, il faudrait que je touche à toi parce que ça ne change pas. Ils n'étaient pas mariés. Alors il s'en va chez eux, faire une étude biblique, puis il leur montre. Hébreux 12, hein, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Il leur montre. Les deux, ils ne réalisaient pas. Ils vivaient dans une place où ce que la plupart ne sont même pas. Alors, il a dit, après qu'il est parti, le lendemain, il leur parle. Puis le monsieur a dit, ben, je n'ai pas très bien dormi, j'ai dormi dans le sous-sol, mais c'est là que je devrais être parce que on a compris qu'on ne continue pas là dans ce que Dieu condamne. Quelques jours après, même le jeune mari, il appelle le pasteur, il dit pasteur, on réalise mon épouse, pas mon épouse, non, ma copine pour l'instant, mais c'est même pas une bonne chose qu'on reste dans la maison jusqu'à ce qu'on puisse se marier. Là, on va se marier. T'auras pas une place où je peux rester parce que je réalise que c'est même pas un bon témoignage là, de rester dans une maison et on veut avoir un bon témoignage. Alors, le pasteur dit laisse-moi en parler à mon épouse, puis je vais te rappeler, on va penser à tout ce qu'on veut. Puis il rappelle, il dit regarde, c'est pas vraiment une situation dans la maison qu'on peut vraiment faire de quoi, mais on a un fort dans un arbre. Hein, pour les enfants, on a construit ça, tiens, un toit, puis des murs, puis c'est pas le luxe, hein, c'est un peu rustique, mais regarde, un petit matelas, quelque chose, tu vas être à l'abri, pour la toilette, tout ça, les douches, tu rentreras, tu feras ce que tu as besoin, puis tu auras une place pour coucher. Alors, pour quelques mois, il a fait ça, ils ont organisé leur mariage, ils se sont mariés, etc. Tout ça pour dire. Même s'ils avaient continué, ce n'était pas une caractéristique, parce que dès qu'ils ont été alertés à ça, ils disent « Ah, c'est vrai, on n'avait même pas réalisé ça. »
Mais dès qu'ils ont compris, ils disent,
ouais, non, on ne veut pas continuer dans le péché. Jésus nous a sauvés, pas pour continuer dans ce qu'on sait maintenant, être péché. Et c'était un bon témoignage de voir la transformation dans leur cœur. Ils ont compris, 1 Thessaloniciens 4:3, Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, ils ont compris, quand Dieu sauve, il nous donne un nouveau cœur pour ne pas vouloir simplement continuer comme si de rien n'était dans ce qu'on sait être mal. Peut-on vraiment savoir qui est sauvé ou non sur cette base? Ben justement, nous, on ne peut pas vraiment voir ce qui est temporaire ou ce qui est vraiment caractéristique d'une vie en fin de compte, en beauté. Alors, c'est pour ça qu'on veut regarder dans 2 Timothée 2:19. Regardez dans 2 Timothée 2:19. Nous, on n'est pas vraiment en bonne situation pour dire, voir dans les cœurs, puis dire, lui, il est vraiment régénéré, elle est vraiment régénérée, lui, il ne l'est pas, elle ne l'est pas, lui, il continue dans son péché comme si de rien n'était, lui, il a simplement de la misère, mais il... Nous, on ne voit pas vraiment ce qui se passe dans le cœur, parce qu'on ne voit pas le fond, et on ne voit pas non plus sur la question du temps. La question du temps révèle beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que Dieu dit ceci dans 2 Timothée 2:19. Il dit ceci... Regardez, dans le contexte, on parle de quelques-uns qui ont professé la foi, mais ensuite qui ont abandonné. Et ils révèlent quoi? Ils révèlent qu'ils ne le connaissaient pas vraiment. Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Là, il dit « néanmoins », verset 19. « Néanmoins », on va lire ensemble, vous êtes prêts, verset 19, c'est page 908. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Alors, ces deux paroles qui lui servent de sceau. Ces deux paroles qui restent, comme il dit, restent debout. Quelles sont ces deux paroles? La première parole, c'est quoi? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est lui qui connaît le fond du cœur. Lui, il connaissait que David l'appartenait vraiment. David était dans une période mauvaise, 9 mois de temps qu'il commettait l'adultère, enfin, il ne commettait pas l'adultère tout le temps, il avait commis l'adultère une fois, mais il le cachait, il ne voulait pas l'avouer. Mais Dieu savait que David lui appartenait et Dieu l'a châtié. On va y arriver au châtiment. Mais il voyait qu'Ésaü, c'était un profane. Dieu connaissait que Ésaü, Dieu ne connaissait pas Ésaü dans ce sens personnel. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent ou pas. Mais ensuite, le deuxième parole, le deuxième sceau, c'est. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous, de notre perspective, si on entend quelqu'un qui dit « Moi, je connais le Seigneur », on peut dire « Ok, tu prononces le nom du Seigneur, tu le réclames pour ton Seigneur, détourne-toi de l'iniquité. » Fais pas simplement des paroles en l'air, de dire « Moi, je suis du Seigneur », continue dans le péché. On peut avertir, regarde, c'est pas la caractéristique de ceux qui connaissent vraiment le Seigneur. Et Dieu connaîtra vraiment si c'est un vrai sauvé qui dit « Ouais, c'est vrai, je vais tout continuer, là j'arrête. » Ou si c'est simplement quelqu'un qui professe en l'air. Nous, on ne voit pas nécessairement. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est entre nous dire « Hey, si on prononce le nom du Seigneur, qu'on s'éloigne de l'iniquité. » Et avertir les gens qui se nomment frères, puis dire « Hey. » Et dans une église, c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 5, il y a une discipline à observer. Dans 1 Corinthiens 5, Paul parle à l'église qu'ils avaient toléré quelqu'un qui vivait, qui commettait l'inceste, il avait comme épouse ou comme femme, l'épouse de son frère. Il était dans une situation d'inceste. L'Église aurait dû dire, wow, non, ça ne se fait pas. Sors de cela. Ne continue pas cela. Et l'Église n'avait rien dit. Personne venait, comme si de rien n'était. Continuez à vivre dans l'inceste. Et Paul dit, vous devriez, en tant qu'Église, faire une discipline de groupe pour dire à telle personne, ça ne se fait pas. Tu professes le nom du Seigneur, tu réclames le connaître comme Seigneur, tu as été baptisé pour témoigner de ta foi, tu es membre parmi nous, mais on te dit non, ça ne marche pas. Ne viens pas jusqu'à ce que tu
tu vois le mal et que tu changes.
Et gloire à Dieu, il a reconnu.
Et dans 2 Corinthiens, Paul dit, reprenez-le, pardonnez-le. Puis il a reconnu son tort, puis il n'a pas continué.
En gloire à Dieu. Donc l'Église a un discipline à faire pour ceux qui sont membres, pour ne pas qu'on n'ait pas de témoignage.
Que les gens voient quelqu'un qui est membre, et puis ils savent quelqu'un qui travaille au noir durant la semaine, ils savent toutes les vices qu'il peut faire durant la semaine, mais c'est un bon membre de cette Église-là. Dieu ne veut pas ce genre de témoignage qui ne vaut rien, qui ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'une église ne peut pas avoir des visiteurs, puis accueillir tout le monde,
perdu ou même ce qui réclame. Mais on parle de ceux qui composent l'église, les membres de l'église.
On a une discipline envers ceux qui composent l'église, l'assemblée, pour avoir un bon témoignage. Et par amour, donc, discipliner quand il y a besoin. Donc nous, on ne peut pas avoir dans le cœur, mais on peut dire, « Hey, si tu professes, viens, détourne-toi de l'iniquité, mets de la viande dans ta profession. » Qui est de quoi réel, une substance à ta profession. Mais parce que le principe est clair. Quand on se convertit, on ne compte plus pas comme si de rien n'était dans le péché, ce que Dieu déclare noir sur blanc être péché. Maintenant, regardons la vie de John Newton, par exemple. Parce qu'on va regarder le principe de Hébreu 12. Regardez dans Hébreu 12. Gloire à Dieu que Dieu lui-même, quand il est fidèle, et quand Dieu sauve quelqu'un réellement, parce qu'il voit dans son cœur la simplicité de lui faire confiance à Jésus, la vraie tristesse sur Dieu, il est vraiment triste d'avoir péché. Quand Dieu sauve quelqu'un, il le scelle du Saint-Esprit, Éphésiens 1:13. Et il ne le rend plus esclave de ses péchés. Cette personne peut lutter avec le péché, peut même marcher dans le péché certains temps, comme David avait fait. Mais Dieu est fidèle dans Hébreux 12, on voit qu'il va agir en tant que Père fidèle, il va châtier au besoin ceux qu'il reconnaît, comme ses fils. On l'a vu dans 2 Timothée 2:19. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et Dieu, connaissant ceux qui lui appartiennent vraiment, il va agir envers eux, il va les châtier au besoin par amour. Il ne va pas les laisser simplement continuer dans ce qui est explicitement mal, comme si de rien n'était. Hébreux chapitre 12, verset 3. On va commencer au verset 3, page 919. Hébreux chapitre 12, verset 3. Il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Là, il parlait de Jésus qui avait enduré la contradiction, puis qui est allé à la croix, etc. Il dit, considérez quelle personne Jésus là, qui a fait tout ça, là, de peur que vous ne vous lassiez, puis que vous soyez découragé. Parce qu'il dit au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ça, c'est Hébreux chapitre 3. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors le fait que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et il est fidèle en termes de Père céleste, qui va châtier un de ses vrais enfants, qui continue dans le péché. Et l'exemple de cela, c'est John Newton. John Newton, il a été élevé par une mère qui connaissait bien l'Évangile et qui est mort dans sa jeunesse. Et ensuite, sa vie n'était pas facile. Il avait été placé dans une maison, dans une école à distance, dans le fond de la... Parce qu'il avait été mis pensionnat, c'est ça. Il est allé faire l'école dans un pensionnat. Certains de ses professeurs ou le directeur étaient très durs, etc. Bref, vous voulez entendre à propos de sa biographie détaillée. Là, je vais vous en donner simplement un peu un résumé.
Son père, qui était marin, qui était capitaine de navire, il avait introduit un peu aux grandes eaux, aux bateaux, tout ça. Et de fil en aiguille, il est venu à devenir capitaine de navire de la traite d'esclaves. Et il faisait beaucoup d'argent, il était un homme très cruel, très perverti. Et il prenait plaisir dans toutes ces choses-là, mais dans son cœur, ça tiraillait parce qu'il savait, il se rappelait des choses qu'il avait entendues dans sa jeunesse. Il avait fait des vœux, toutes sortes de choses dans sa jeunesse, de vraiment suivre Dieu, etc. Il savait qu'il avait fait fi de tout cela. Ça travaillait dans son cœur, il savait à quel point il avait complètement mis de côté Dieu. Et là, à un moment donné, grosse tempête. Et là, il pense mourir. Et il se tourne vers le Seigneur. Et là, changement. Mais il continue la traite d'esclaves en tant que capitaine. Il retourne un peu ses vieilles habitudes. Son cœur se refroidit. Mais là, c'est plus la même chose. Comme on l'a vu, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Le Saint-Esprit travaille dans son cœur. Il le rend misérable dans les. Savait qu'il ne pouvait pas prendre plaisir dans ce qu'il faisait comme avant. Là, il est devenu malade d'une fièvre que personne ne comprenait. Alors, pourquoi il était devenu fiévreux, sans aucune raison. Lui, il savait très bien ce qui se passait dans sa tête. Là. Il savait très bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faisait la tête dure. Et il savait que Dieu était en train de le châtier. Et il s'en allait à la mort, là, tellement sa fièvre était forte. Là, ensuite, il dit, ok, Dieu, pardonne-moi, j'ai laissé mon cœur s'endurcir, au lieu de vraiment te suivre et de marcher avec toi. Là, la fièvre l'a quitté, et là, il s'est marié avec la jeune femme qu'il admirait depuis sa jeunesse, une femme très pieuse, une femme qui connaissait le Seigneur. Et après un certain temps, là, il avait besoin de retourner à son travail. Il dit, ma chérie, c'est tout ce que je connais, être capitaine de bateau. J'aime pas la traite, mais c'est tout ce que je connais du travail. Sa femme a dit, mais chérie, Dieu peut te donner un autre travail. Je prie pour ça, qu'il te donne un travail légitime. Je prie même que Dieu t'appelle au ministère, que Dieu te donne un travail, le travail des travails, le travail de berger, de sous-berger, de pouvoir prêcher l'évangile. Oh, il dit, tu me prends pour qui, là? Je suis un pauvre minable de pêcheurs sauvé par grâce, là. Tu me prends pour qui? Pour que je sois dans le ministère, tout ça. Là, il a fait du malaise. Dans cette discussion-là, il s'est remis de sa malaise, mais il n'était pas assez fort pour reprendre le bateau qu'il devait prendre. Et il a ensuite entendu la nouvelle que, après être parti 2 jours, et une grosse tempête, le navire qui devait être dessus en tant que capitaine a coulé. Tous sont morts. Et il a dit, ouais, qu'est-ce que je fais là, même considéré de reprendre, je sais à quel point Dieu a eu cette traite-là. Et là, il s'est détourné de cela, et Dieu l'a pourvu à notre travail. Un travail légitime. Un travail qui était très dur à avoir et lui n'avait même pas essayé d'avoir, puis on lui a offert. Dieu est capable de prendre soin quand on lui fait confiance et quand on se détourne de ces choses qu'on sait être mauvais. Et quelques années plus tard, même, Dieu l'a appelé au ministère. Il est devenu un grand prédicateur. Il a écrit un cantique. Hein, je pensais avoir mis les paroles, c'est vrai, je ne les ai pas faites. Mais on va les lire, les paroles, et on va les chanter tout à l'heure. Parce que c'est celui qui a écrit « Grâce infinie ». Il sait à quel point il avait été méchant, il avait pris plaisir dans les choses de perversité, dans la cruauté, dans profiter des autres humains pour s'enrichir. Il savait tout ça, et il sait que Dieu a eu pitié de lui pour le sauver. Et ensuite, Dieu l'a châtié comme un père fidèle, parce que même là, après ça, il avait continué là-dedans, même si c'était de loin. Et il sait à quel point Dieu, dans sa grâce, l'a sauvé et ensuite, dans sa grâce aussi, l'a rétabli pour le servir. Il l'a aidé à grandir dans sa foi. John Newton, si vous pouvez lire sa biographie, j'encourage de lire sa biographie et d'apprendre de sa vie. Donc, Dieu veut qu'on se repente de nos péchés. Fondamentalement, Dieu ne veut pas qu'on continue dans un égoïsme de fond, mais qu'on se convertisse à lui. Mais ensuite, en tant que Père Céleste qui nous châtie, il nous châtie pour qu'on apprenne à vivre une vie de sacrifice et non pas d'égoïsme. Aussi, là, je veux clarifier une chose. Pour le chrétien, là, ensuite, on a une minute à quel point on va sacrifier ou à quel point on va peut-être pas faire des choses clairement noir sur blanc péché, mais on va peut-être être distrait par les choses de ce monde et faire les choses qui ne sont peut-être pas noir sur blanc péché, mais les choses qui n'aident pas la cause de Christ. Et c'est dans ce contexte-là que Paul avait dit dans Philippiens chapitre 2, il parle dans Philippiens chapitre 2, comme on avait lu au début, il n'y a personne ici, comment est-ce qu'il dit cela ? Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Là, c'était d'un égoïsme relatif. Il ne parlait pas, je n'ai personne ici qui vit une vie de sacrifice, tous sont égoïstes au sens total, ils continuent des vies efféminées ou adultères ou voleurs. Non, il ne parle pas de ce genre d'égoïsme de fond. Et là, quand on parle de fond, on parle même de que ceux qui vivent des choses noires sur blanc comme ça, mais qui, dans le fond de leur cœur, sont pécheurs, ils le savent. Donc on ne parle pas simplement que les pires, les gens, les vicieux sont cela, mais ceux qui sont perdus. Il ne parlait pas de continuer noir sur blanc. Il parlait, je n'ai personne ici qui, même dans leur service chrétien, veut vraiment sacrifier et faire un long voyage. Ils n'y voyaient pas leur intérêt. Ils veulent continuer à servir dans leur petite église, c'est correct, c'est beau. Mais qu'il parlait d'un égoïsme relatif. Ce n'était pas un péché de ne pas prendre ce voyage. Ce n'est pas comme si des personnes dans son entourage dans l'église de Rome, parce que Paul est à Rome ici. Ce n'est pas que les personnes dans son entourage, les chrétiens, ça donnait clairement à ce qui était noir sur blanc le péché, mais tout en vivant d'une façon pour Dieu, ils ne voulaient pas se donner plus que ça. Et Paul dit, ils cherchent leur propre intérêt. C'est pour ça que j'ai dit, égoïsme fondamental ou un égoïsme de fond. Dieu veut que, quand on se convertit, non seulement on évite les péchés qui sont noirs sur blanc, mais ensuite aussi qu'on se porte à qu'est-ce qui n'est pas notre intérêt, mais qu'est-ce qui est l'intérêt de Jésus-Christ. Qu'on puisse sacrifier les choses qui sont légitimes, qu'on aurait le droit de faire, mais on les sacrifie parce qu'on veut faire avancer encore plus l'œuvre de Christ. Skanderberg, qu'on a vu la semaine dernière, il n'a peut-être pas appliqué ces principes qu'il avait appliqués dans sa vie, dans ce monde, pour défendre son pays, il ne les a peut-être pas appliqués à l'ensemble. Mais nous pouvons quand même apprécier Skanderberg pour la vie de sacrifice, et pour ceux d'entre nous qui avons fait le choix de se convertir à lui, soyons humbles pour dire qu'on peut apprendre de son dévouement dans ce monde, mais nous on peut l'appliquer pour l'éternité. Et donc on peut apprécier lire une biographie même sur quelqu'un qui ne s'est pas converti, Skanderberg par exemple, on l'a vu la semaine dernière, mais nous on peut le faire pour des causes éternelles. Quel est votre besoin ? De vraiment vous convertir fondamentalement et ensuite de le servir ? Ou est-ce que vous êtes vraiment converti ? Et maintenant, est-ce que vous le servez et vous ne voulez pas continuer à vivre d'une façon distrait par ce monde, distrait par les choses qui vous sont propres, et vous voulez vraiment vivre une vie de sacrifice pour la cause éternelle de Jésus-Christ ? On va prier. Seigneur Dieu, touche les cœurs, on te prie. S'il y a des gens ici qui reconnaissent, qui sont perdus, oh Seigneur, qu'ils puissent avoir la joie aujourd'hui de venir à Jésus. Que les anges puissent se réjouir qu'un, même un seul pécheur, même s'il n'y en a juste un, vienne à Jésus, Seigneur Dieu. On sait que c'est la joie au ciel quand même un seul pécheur se repent. Oh Seigneur Dieu, on te prie de toucher le cœur de ceux, Seigneur Dieu, par ton esprit, que tu touches le cœur pour leur montrer à quel point ils sont perdus sous la puissance de Satan. Qu'ils puissent réaliser à quel point ils sont pécheurs dans leur cœur et perdus face à toi et mettre leur confiance en toi, en Jésus, de les sauver parfaitement, de leur donner un nouveau cœur pour ensuite être fidèles à les aider à grandir. Seigneur, touche les cœurs. Et Seigneur, pour ceux qui te connaissent, Seigneur Dieu, pour ceux d'entre nous qui te connaissons, ceux d'entre nous que tu connais personnellement, Seigneur, continue à travailler dans nos cœurs, châtie-nous aux besoins, Seigneur Dieu, aide-nous à vivre d'une façon en sacrifice pour la cause éternelle de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, et ne pas être distrait par suivre nos propres intérêts, Seigneur Dieu, on te supplie. Au nom de Jésus. Amen. On va chanter.